Francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà le monde aujourd'hui au micro, Bagassi Koura et Nathalie Barjo. Bonjour Nathalie.
Bonjour Bagassi.
Ravi de vous retrouver donc sur les ondes de VOA Afrique. Au sommaire ce lundi 17 novembre 2014, Michel Kafando est le président de transition du Burkina Faso depuis ce matin. Son portrait dans ce journal.
Accident sur le fleuve Niger. Au moins 2 personnes ont été tuées, 11 écoliers portés disparus dans l'attaque d'une pirogue par un hippopotame près de Niamey.
En RDC, la cour militaire du Nord Kivu a rendu son verdict dans le procès des assassins présumés du colonel Mamadou Ndala, colonel assassiné le 2 janvier dernier par un tir de roquette.
Et sans oublier bien sûr en fin d'émission les sports et la musique, mais avant tout le journal.
Au Burkina Faso, Michel Kafando a été choisi ce lundi 17 novembre pour conduire la transition d'un an et préparer l'élection présidentielle de novembre 2015. Un portrait de l'homme avec Idriss Fall.
La charte de la transition a été paraffée hier soir et le collège de désignation du président de la transition a retenu Michel Kafando après une réunion qui s'est terminée à 4h du matin. Très peu connu du grand public, Michel Kafando est né le 18 août 1942 à Ouagadougou. Diplômé en droit public et en sciences politiques, il a été le diplomate de carrière qui a traversé tous les régimes de Sangoulé Lamizana à Blaise Compaoré. Plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, entre 1977 et 1980, il a été nommé une première fois ambassadeur auprès des Nations Unies en 1982, alors que le pays s'appelait encore la Haute-Volta. Il reviendra à New York entre 1998 et 2011 comme représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Ayant vécu près de 15 ans aux États-Unis, il est parfaitement bilingue. À 72 ans, il avait pris sa retraite et s'occupait d'activités avicoles à Saponé, à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Peu après sa nomination ce matin, il a reconnu l'immensité de la tâche qui l'attend. D'abord former un gouvernement de 25 membres et surtout organiser l'élection présidentielle de novembre 2015 qui marquera la fin de sa délicate mission.
Accident sur le fleuve Niger. Au moins 2 personnes ont été tuées et 11 écoliers portés disparus dans l'attaque d'une pirogue par un hippopotame près de Niamey. Des précisions avec Michel Joseph.
Les autorités locales citées par l'AFP rapportent que l'accident a été provoqué par un hippopotame qui a renversé la pirogue avec au moins 18 personnes à bord, en majorité des élèves. L'embarcation assurait la traversée entre les deux rives du fleuve Niger qui divise la capitale nigérienne. Selon un responsable local, 2 des 5 rescapés sont des écoliers. Des recherches sont en cours afin de retrouver d'autres victimes, selon des témoins. Des troupeaux d'hippopotames à la recherche d'herbes fraîches ou d'eau profonde s'aventurent régulièrement près de la capitale et y sèment souvent la panique. En 2013, un hippopotame a été abattu par balle par les agents de l'environnement après avoir mortellement mordu un adolescent à Niamey.
Voilà, c'était Michel Joseph, le centre médical du Nebraska ici aux États-Unis, dans la ville donc d'Omaha, a annoncé la mort d'un médecin atteint du virus à Ebola, une maladie qui était survenue en Sierra Leone, Jean-Roger Bion.
L'hôpital a publié un communiqué disant que Martin Salia était décédé à la suite de symptômes avancés de la maladie. C'était le 3e patient d'Ebola à suivre un traitement au centre médical du Nebraska et la 2e personne à mourir de la maladie aux États-Unis. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a présenté ses condoléances à ses proches et a déclaré que le décès du docteur Salia était un nouveau rappel du bilan humain de cette maladie et qu'il était impératif de continuer à attaquer l'épidémie sur la ligne de front. Hier, le Libéria, le pays le plus durement touché d'Afrique de l'Ouest, s'est fixé comme objectif 0 nouveau cas d'ici la fête de Noël, le 25 décembre. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a déclaré dans un discours à la radio nationale que le système de soins de santé du Libéria doit être mieux préparé pour toute future épidémie, avec de nettes améliorations nécessaires aussi bien au plan de l'économie que de la gouvernance. Sur les quelques 5165 décès causés par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de 2800 ont été enregistrés au Libéria.
Le gouvernement nigérian va demander au Parlement de prolonger de 6 mois l'état d'urgence dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice. Le président Goodluck Jonathan avait décrété l'état d'urgence dans les états d'Adamawa, de Borno et de Yobe en mai 2013 pour donner des pouvoirs spéciaux à l'armée chargée de venir à bout de l'insurrection islamiste. Cette mesure initiale de 6 mois avait été renouvelée à 2 reprises par le Parlement.
Voilà, des centaines de Kenyans ont manifesté ce lundi à Nairobi pour protester contre des récentes agressions contre des jeunes femmes accusées de porter des vêtements trop courts ou trop ajustés, Claire Mourenjibou.
Ce sont près de 1000 personnes qui se sont rassemblées dans la capitale kényane contre la violence et pour défendre le droit des femmes à porter les vêtements qu'elles veulent. 2 vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux montrant des groupes d'hommes arrachant les vêtements de jeunes femmes et les frappant à coups de pied dans leur partie génitale. Les organisateurs de la marche affirment que plus d'une dizaine d'attaques de ce genre ont eu lieu dans tout le pays. L'attaque d'une jeune femme à Nairobi la semaine dernière dans une rue bondée et en plein jour a déclenché un grand mouvement de protestation, obligeant le président William Ruto à condamner cette attaque et à promettre des poursuites. Selon les organisateurs de la marche, il faut mettre fin à l'impunité car les auteurs des crimes d'ordre sexuel ne sont que très rarement poursuivis.
En Égypte, un tribunal militaire de la ville de Suez a condamné 17 islamistes à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison pour incitation à la violence et pour avoir attaqué des soldats en août 2013. Ce jour-là, les forces de sécurité égyptiennes avaient fait plus de 700 morts en quelques heures, selon un bilan officiel, en dispersant 2 sit-ins des partisans de Morsi sur les places de Rabat al-Adawiya et Nada au Caire. Selon une source militaire citée par l'AFP, un autre accusé jugé dans la même affaire a été acquitté, a précisé la source.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre de l'Intérieur de la France affirme qu'un Français figure parmi les militants d'État islamique, apparaissant dans une vidéo annonçant la décapitation du travail humanitaire américain Abdul Rahman Kassig et de 18 soldats syriens. Bernard Cazeneuve a identifié le citoyen français comme étant Maxime Auchard, âgé de 22 ans. Abdul Rahman Kassig avait été capturé en Syrie il y a 13 mois. Le président américain Barack Obama a condamné l'assassinat hier, qu'il a qualifié d'acte purement maléfique.
Les diplomates européens réunis à Bruxelles, en Belgique, ont demandé d'ajouter plus de rebelles séparatistes de l'Est de l'Ukraine sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Cependant, il n'y avait aucune indication que la Russie serait frappée de sanctions supplémentaires.
Et les combats sur le terrain, donc dans l'est de l'Ukraine, des témoins ont rapporté des bombardements ce lundi dans le secteur de Donetsk, bastion des séparatistes pro-russes. Les autorités ukrainiennes ont rapporté que 7 soldats et 3 policiers ont été tués au cours des dernières 24 heures dans des attaques à divers endroits dans les régions de Donetsk et Luhansk. Les autorités de Donetsk ont indiqué qu'un civil a été tué et 8 autres blessés au cours du week-end.
Voilà, et puis une femme qui élevait de la volaille en Égypte est morte de la grippe aviaire. C'est le deuxième décès dû au virus H5N1 dans le pays. Cette année, 2 élevages de volailles en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ont confirmé différentes souches du virus. Et l'Union européenne va mettre en place des mesures conservatoires urgentes pour contenir ce virus très contagieux. Les autorités néerlandaises ont détruit 150 000 poulets dans une ferme du centre du pays. Le gouvernement a déclaré la souche hautement pathogène chez les oiseaux. Les autorités britanniques ont confirmé de leur côté un cas de grippe aviaire dans un élevage de canards du Yorkshire où les oiseaux sont également tués pour empêcher la propagation de la maladie.
Et de nouvelles études montrent que l'économie du Japon est en récession depuis 2 trimestres suite à une augmentation des taxes qui apparemment a découragé les dépenses des consommateurs et des entreprises. Selon la presse financière, cette mauvaise nouvelle devrait inciter le Premier ministre Shinzo Abe à retarder une nouvelle hausse d'impôts prévue et à appeler à des élections anticipées.
Voilà, c'est tout pour le journal au micro. Bagassi Koura et Nathalie Barge, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe à la partie magazine de notre émission. Voilà, tous décembre rentrer dans l'ordre. Après deux semaines de tractation, la machine de la transition burkinabé semble désormais en bonne voie.
Et oui, elle a même brusquement, Bagassi, accéléré la cadence en une journée. La charte a été signée quelque temps après. Le nouveau président de la transition a été désigné en la personne de Michel Cafando. Ce mardi sera nommé le Premier ministre et le gouvernement formé jeudi. Reportage sur ce marathon politique au Burkina Faso avec Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
C'est très tôt ce matin qu'a été dévoilée l'identité du président civil de la transition burkinabé. Il s'appelle Michel Cafando. Voici ses premiers mots, juste après l'annonce officielle à lui faite.
Plus qu'un honneur, c'est une redoutable responsabilité qui me choisit, dont j'entrevois déjà les écueils et l'immensité de la tâche. Je prends l'engagement, l'essentiel étant de parvenir à terme à l'objectif visé, à savoir bâtir une nouvelle société, une société réellement démocratique où la justice sociale, la tolérance et l'union des cœurs seront les principaux référentiels.
Que pensent et attendent les Burkinabés du président Michel Cafando?
C'est sorti vers les 3 heures par là qu'on a appris que c'était Cafando Michel qui était le président. Vraiment, notre souhait c'était qu'une femme au moins, que ça va dans l'histoire, puisse diriger le Burkina Faso pendant une année. Cela nous fait plaisir.
Nous sommes très contents. Nous sommes très heureux parce qu'on ne veut plus de militaires, on veut un civil, on l'a eu et nous lui souhaitons bon vent.
J'ai confiance à lui et mes amis aussi ont confiance à lui. On est très très content de lui, personne ne parle mal de lui.
Eu égard à son expérience et à ce qu'il a vécu au cours de sa vie professionnelle, il est ambassadeur, il a occupé des fonctions ministérielles, donc il a une certaine expérience qui puisse lui permettre de gérer cette situation qui nous me paraît toujours difficile.
Chérif Si, notre confrère du journal Bendré, était dans le trio pour le choix final. Il n'a pas été retenu, mais n'en tire pas moins une certaine fierté.
J'étais suffisamment comblé en ce sens que la société civile ait porté ma candidature, je n'ai pas sollicité, que les partis politiques aient porté ma candidature, que je n'ai pas sollicité. Donc, je pense que c'est une grande reconnaissance à mon endroit, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La désignation du président de la transition a été précédée par la signature officielle de la charte de la transition. Et c'est là-bas que le lieutenant-colonel Yacouba Zida a fait un discours musclé sur Blaise Compaoré. Morceau choisi du discours du lieutenant-colonel Yacouba Zida.
L'insistance insensée et la myopie politique de la révision constitutionnelle nous a profondément secoués. En effet, s'il n'y avait pas eu cette tentative de modification de l'article 37 de la Constitution, il n'y aurait pas eu d'insurrection populaire mettant ainsi un terme net au mandat du président Blaise Compaoré. En effet, les forces vives, y compris les forces de défense et de sécurité, ont su donner la réplique à ce qu'il convient d'appeler désormais la forfaiture de Blaise Compaoré.
Nous avons approché Syriac Paré, enseignant-chercheur. Voici son décryptage du discours du lieutenant-colonel Yacouba Zida.
De sa part, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé au cours des journées des 30 et 31. Comment est-ce que le départ de Blaise a été acté, si je puis dire? Quelle est la position, la posture, le positionnement des différents protagonistes?
Zoumana Wonogo, VOA Afrique, Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En RDC, la cour militaire du Nord-Kivu a rendu son verdict dans le procès des assassins présumés du colonel Mamadou Ndala. Tué le 2 janvier dernier par un tir de roquette, il est considéré comme l'un des héros de la guerre contre la rébellion du M23.
Une vingtaine de personnes étaient poursuivies, notamment 4 officiers supérieurs des FARDC, 2 anciens gardes du corps du colonel Ndala. Reportage à Beni de Louembo Erickson de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
La cour condamne par défaut à la peine de mort 5 prévenus pour participation et commandement d'un mouvement insurrectionnel ainsi que terrorisme, et constate l'extinction de l'action publique à 4 prévenus de CD, dont Ndabou Ndongala, et l'a acquitté 7 prévenus, dont l'ex-commandant Fardese en ville de Beni. Cependant, elle a prononcé 3 peines lourdes contre 3 prévenus. L'extrait de la condamnation avec le premier président de la cour, Joseph Mukago.
Le prévenu Biro Tsonjanjukosi, la cour militaire opérationnelle le condamne à la peine de mort. La cour prononce en outre sa destitution. Sur le prévenu Kamoulete Joker, à 15 ans de servitude pénale principale, prononce en outre sa destitution. Prévenu Youssouf Mandef Benoît, à 15 ans de servitude pénale principale avec une durée de sûreté compressible de 5 ans.
La partie civile n'est pas satisfaite. Maître Goyo Milemba, avocat au barreau de Goma.
On n'est pas du tout satisfaite de telle manière que la responsabilité civile de l'État congolais n'a pas été établie. Parce que toutes les jugements aujourd'hui démontrent que lorsqu'on condamne en principe un agent de l'État, dans les cas d'espèce, mais aujourd'hui, bien sûr, on alloue 2 millions de dollars à l'association Mamadou, mais on donne ça dans les dos de seuls agents de l'État qui sont ici, c'est nous. Et on ne comprend pas comment est-ce que cette famille va avoir cet argent. Et donc, pour nous, on n'est pas du tout satisfait de telle manière que la responsabilité civile de l'État n'a pas été établie.
La société civile souhaite que les condamnés purgent réellement leur peine.
Presque satisfait. Nous avons encore des craintes parce que, vous savez, au Congo, après que les gens subissent des condamnations comme ça, ils n'arrivent pas à purger leur peine dans des prisons. Nous émettons le vœu de voir tout ce monde-là purger réellement leur peine. Nous souhaitons à ce que ces gens-là soient amenés à Kinshasa ou qu'ils aillent purger leur peine, prison Makala.
Au sujet de l'autre cause de massacre de la population, la cour a acquitté 2 prévenus et condamné 2 autres, l'un à la peine de mort et l'autre à 4 ans de prison ferme. Beni Louembo Erickson.
Voilà, donc c'était Louembo Erickson à Beni, de notre station partenaire Top Congo FM.
Et toujours en RDC, les conséquences de la grève des magistrats se font sentir déjà dans la communauté au sud Kivu. Aucun procès ne se tient, les justiciables et les avocats se plaignent. Pendant ce temps, les magistrats, eux, ne parlent plus le même langage. Reportage de Jolie Kamoutou, notre correspondante à Bukavu au sud Kivu.
Majorité des bureaux des magistrats fermés, salles d'audience vides, les membres des familles de certains justiciables assis dehors, à même le sol, pas de va-et-vient des toges noires. Voilà à quoi ressemble le palais de justice du Sud Kivu depuis le déclenchement de la grève des magistrats il y a 2 semaines. Certains justiciables détenus au cachot attendent le procès. Les membres de leur famille se présentent au parquet ne sachant même pas qu'il y a grève.
Moi, on a arrêté mon mari depuis le jeudi. On nous a dit que c'est aujourd'hui qu'ils vont comparaître, mais je ne sais pas si ça sera possible. Je suis venu voir mon fils arrêté ici. C'est aujourd'hui qu'il doit comparaître, mais je ne crois plus. Je suis venu aussi voir mon mari. Je viens suivre le procès pour entendre le sort qui lui sera réservé.
Certains avocats venus aussi plaider la cause de leurs clients sont là sans rien faire. Maître Benjamin Balola note que cette grève préjudicie plus la population et viole le principe de célérité de certains dossiers tels que le viol.
Alors les droits de nos clients devant le parquet, par exemple, nous observons déjà une situation où les détentions de nos clients deviennent irrégulières. On ne peut rien faire par rapport à ça. Il n'y a plus moyen de solliciter une liberté provisoire par rapport à ça. Ils n'ont pas été présentés devant la chambre de conseil pour que le tribunal analyse la régularité ou l'irrégularité de cette détention. Ils restent dans cet état alors qu'on a été consultés.
Le palais de justice fait peur, surtout après la suspension des 30 magistrats à Kinshasa. Ceux du Sud Kivu évitent notre micro. Mais ceux qui ont accepté de parler ont requis l'anonymat et s'expriment mais en voix brouillée pour éviter de subir le même sort que leurs collègues de Kinshasa. Les fonctionnaires de la justice se demandent comment les hauts magistrats s'attaquent aux grévistes alors qu'ils partagent tous le même sort. Les magistrats sont en grève sur toute l'étendue du pays depuis 2 semaines. Ils réclament le paiement de 1 600 $ promis par le président depuis 2011. Bukavu, Jolie Kamoutou, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Un chirurgien qui avait contracté le virus Ebola alors qu'il travaillait dans son pays d'origine, la Sierra Leone, est décédé ce lundi de la maladie. Le docteur Martin Salia avait été évacué samedi de Freetown pour être soigné dans un hôpital américain, le centre médical de Nebraska, à Omaha, dans le Nebraska, donc.
Et son état s'était détérioré avant même son évacuation ici aux États-Unis. Lorsqu'il a commencé à souffrir de symptômes de la maladie, il s'est fait tester. Un test revenu négatif 4 jours plus tard. Un autre test revenait positif. Le docteur Malonga Miatudila, qui dans les années 76 avait aidé à identifier le virus Ebola pour la première fois dans l'ex-Zaïre, actuel RDC, il explique donc pourquoi ce premier test n'a pas été fiable.
C'est inhabituel, mais ça peut arriver parce que tous les tests dont nous disposons en médecine ont ce qu'on appelle la part de faux négatifs. Donc, il y a des malades qui peuvent être infectés par un germe, mais le test n'arrive pas à détecter la présence de ce germe. Maintenant, je ne connais pas le test qui a été utilisé. Est-ce qu'on cherchait ce qu'on appelle la charge virale ou est-ce qu'on cherchait la signature sérologique? Ça, moi, je ne peux donc pas dire.
Le docteur Salia avait commencé à souffrir de symptômes de la fièvre hémorragique à virus Ebola le 6 novembre. Et puis, il s'est fait tester, donc il était négatif. Et le 10 novembre, il a été testé à nouveau, mais cette fois-ci positif. Est-ce que la maladie peut évoluer si rapidement qu'à partir de ce moment-là, son état était extrêmement critique?
Ah oui, la maladie, elle est connue, elle évolue très très rapidement en moins de 7 jours. Donc ça, c'est connu. Alors, encore une fois, comme je ne connais pas le test qui a été utilisé, si c'est la sérologie, à ce moment-là, c'est tout à fait compréhensible parce que le virus peut prendre de vitesse la réaction immunitaire du patient. Et à ce moment-là, alors, le virus est là, mais le malade est un peu lent à fabriquer des anticorps ou en tout cas montrer des signes de réaction immunitaire. À ce moment-là, si c'est le test est basé sur l'immunologie, le test va être négatif. Mais si c'est la charge virale, ça risque d'être plutôt positif. Donc, encore une fois, comme je ne sais pas quel test a été utilisé, c'est difficile d'être plus affirmatif.
Le docteur Salia a travaillé à l'hôpital méthodiste Kissi United Methodist Hospital à Freetown, la capitale de Sierra Leone. Ce n'est pas vraiment un hôpital pour soigner les victimes du virus à Ebola, c'est un hôpital général. Est-ce que ça montre qu'il faut que partout on fasse extrêmement attention?
Ah oui, moi ce que je dis que le virus Ebola ne va pas seulement provoquer des épidémies. Le virus Ebola, malheureusement, va devenir endémique. Ça veut dire qu'il faut s'attendre maintenant sur cette planète Terre d'avoir de temps en temps des cas dans des endroits inattendus.
C'était le docteur Malonga Miatudila, joint aux États-Unis par Camille Gros-Didier.
Écoutez donc le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagessi.
Alors aujourd'hui c'est jour de Sporama, mais on va évoquer brièvement certains des sujets que vous allez développer dans Sporama. On commence par la 6e journée des éliminatoires de la CAN en préparation.
Et oui, dans le groupe B, les Aigles du Mali se compliquent encore la tâche. Après avoir perdu à domicile contre l'Éthiopie, les Maliens ont perdu contre le Malawi 2-0, c'était samedi. Une deuxième défaite d'affilée qui rend capitale la réception à Bamako mercredi de l'Algérie déjà qualifiée. Écoutez Sigamari Diarra, l'international malien que j'ai joint ce soir.
C'est un match capital, un match où on va dire on est dos au mur, mais on a encore le destin entre nos pieds. Donc c'est-à-dire on est à domicile, on a la chance de recevoir dans ce match capital. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations au bout du compte, donc voilà une surmotivation. Pour eux, c'est peut-être un match de prestige, un match de gala. Un match qui va leur permettre de confirmer en tout cas leur jeu en place de numéro 1 en Afrique. Nous, c'est un match pour notre part qui est décisif. Donc dans les têtes, c'est sûr, c'est clair qu'on n'est pas pareil. Mais en tout cas, je pense qu'on a autant envie de gagner ce match.
Sigamari Diarra, le joueur du FC Valenciennes, joint à Bamako. Sachez également que le milieu malien de Wolverhampton, Bakary Sako, est suspendu pour ce match qui aura lieu donc mercredi à Bamako.
Et puis André Ayou, hein, le Ghanéen, lui, est aussi forfait.
C'est la fédération ghanéenne qui a fait savoir qu'André Ayou manquerait le match de mercredi face au Togo, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est blessé lors de la défaite de sa sélection. C'était ce week-end en Ouganda, 1-0. Par ailleurs, autre forfait, le Camerounais Eric Choupo-Moting de Schalke 04 a déclaré forfait pour le match contre la Côte d'Ivoire.
Et cyclisme Tour du Rwanda.
Leader virtuel du classement UCI Africa Tour avant la dernière épreuve du calendrier africain au Tour du Rwanda, Mekseb Debesay n'a pas raté l'occasion ce lundi lors de la première étape du Tour du Rwanda de prendre le dessus sur son rival marocain Muhishine Lachani. L'Érythréen de l'équipe allemande Bike and Aid s'est en effet imposé au sprint devant trois de ses compatriotes, tandis que le leader de l'équipe du Maroc est relégué à plus de 2 minutes après avoir été lâché dans le final. Le maillot jaune n'a pas changé d'épaule, il est toujours porté par le jeune Rwandais Janvier Hadi, vainqueur dimanche du prologue à Kigali.
C'est bien ça qu'on appelle le tour de 1000 collines?
Tout à fait, parce que ça grimpe. Hein.
D'accord, merci bien Nicolas.
Et voilà, après les sports, la musique, comme de coutume, avec Roger Muntu, qui bien vient sûr. Juste d'arriver. Ça va bien, Roger?
Ça va trop, trop bien, Nathalie.
Alors, le week-end était bon.
Je dois aussi dire salut Bagassi, hein, parce que Bagassi va se fâcher si je dis pas bonjour. Mais salut Bagassi, hein. Ouais. Et je te repose la même question que Nathalie pose. Est-ce que le week-end était bon pour toi?
Oui, le week-end était super bien, mais bien sûr, tu sais bien qu'on a les yeux qui étaient tout nouveaux au Burkina Faso.
Ça, c'est vrai.
Pour voir... Comment est-ce que les choses allaient se développer?
Ça, c'est sûr.
Apparemment, les choses sont en bonne voie. Hein.
Ben, c'est super. Mais écoute, Nathalie, le groupe Maroon 5 a fait une série de remixes efficaces de leur chanson Animals. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'écouter cette chanson-là, mais c'est une très belle chanson.
Très souvent, je l'entends très souvent à la maison. C'est pas moi qui la mets, mais j'ai l'occasion
mais
de l'entendre tous les matins, tous les soirs.
Ben voilà, on doit le reconnaître que c'était le bon moment pour envoyer, n'est-ce pas, ces remixes du titre en radio, car cela a boosté leur audience et leur a permis de garder leur place dans le hit parade américain, le top 10 American Music. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm
Alors Roger, Animals du groupe Maroon 5 a fait son entrée dans le top 10 des morceaux les mieux représentés sur les ondes de cette semaine, c'est ça?
Ah, cette semaine, cette c'est semaine. Sûr Nathalie, oui, à la 10e place devant Boom Clap de Charlie XCX et Andalus de Kenji, pour ne pas laisser retomber le souffle et accroître encore davantage les diffusions du nouveau single de Maroon 5. Le label Polydor Universal Music propose une série de remixes, comme je venais de le dire, tout ça plus efficace les uns que les autres. 4 nouvelles versions viennent d'être dévoilées. Nous aurons, Nathalie, l'occasion de les écouter prochainement.
Eh ben, 4 nouvelles versions, c'est bien. Ça va être l'intox, alors. <C'est ça. rire>
24 heures sur 24, Maroon 5.
Maroon 5 Animals, et on vous retrouve à 20h temps universel dans le RM Show.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, donc c'est avec Roger Muntu, donc avec cette musique de Maroon 5 que s'achève le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïman a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Le micro, c'était Bagassi Koura et Nathalie Barge. Dans quelques instants, le grand Nicolas sera là pour Sporama. Toutes les histoires de la CAN avec Nicolas Pinot.